On va cesser de parler politique, puisqu'on va retrouver notre invitée Catherine Millat, qui est critique d'art, fondatrice et rédactrice en chef de la revue mensuelle Art Press. Vous publiez Aimé Lawrence aux éditions Flammarion. Il s'agit de votre rapport à D.H. Lawrence, l'auteur notamment de L'aimant de Lady Chatterley. Encore que j'ai dit que ça n'était pas politique, mais par exemple pour Malraux, qui a fait une postface à l'amant de Lady Chatterley, qui a également fait une préface à la clos Liaison dangereuse, le désir était une question éminemment politique. Malraux d'ailleurs reliait la naissance de la démocratie, la Révolution française, avec ce tournant érotique dans les lettres chez Sade et chez la clos. Vous intéressez malgré tout à la politique, Catherine Millat?
Je m'intéresse beaucoup à la politique, mais ceci dit, en écoutant là tout à l'heure la chronique, je me suis dit, je regrette pas ma soirée d'hier, parce que moi j'étais sur la chaîne parlementaire, figurez-vous.
Sur la chaîne parlementaire.
Et je suis tombée sur une émission où il était question de vaginisme, de l'impuissance des hommes, et ça se terminait par un éloge de la masturbation.
C'était une contre-programmation.
Oui, je trouve que j'ai pas perdu ma soirée.
j'ai lu que vous déploriez la médiocrité du personnel politique.
Ah bah oui, quand même. Alors peut-être que... Alors il faut que je rectifie un peu, parce que le lendemain du jour où j'ai dit ça chez un de vos confrères, j'ai un ami qui m'a téléphoné, qui m'a dit « Écoute, tu as dit ça sur les politiques, t'aurais mieux fait de parler des médias. » Bon, alors c'est vrai que les médias ont aussi largement leur responsabilité. Je pense que oui, on a malheureusement pas affaire à des intellectuels, même quand ils sont un petit peu mieux, comme Monsieur Macron et je crois même comme Monsieur Philippe. Mais bon, c'est pas... voilà, on n'est pas en présence de gens très profonds. Voilà.
La question du désir est une question politique. Et lorsque vous constatez la manière dont le plaisir est aujourd'hui observé dans la société, dont il est représenté, lorsqu'on voit, par exemple, ce que votre livre, publié en 2001, a provoqué comme réaction, Catherine Millat, La vie sexuelle de Catherine M, et lorsque vous envisagez aujourd'hui ce que D.H. Lawrence dépeint en matière de plaisir féminin, qu'est-ce que ça vous évoque? Une régression?
Oui, en fait, si vous voulez bien, je préférerais commenter. Vous avez fait une remarque à l'instant. Vous rappeliez que Malraux avait relié la littérature érotique qui l'avait intéressé, qui l'avait préfacé la clos, et aux bouleversements sociaux qui étaient venus tout de suite après. Moi, je pense que quand même, il faut pas négliger cet autre bouleversement social qu'a été l'émancipation des femmes débutant à la fin du 19e, début du 20e, parce que je pense que cette émancipation des femmes, et notamment leur émancipation, pas simplement économique, mais aussi sexuelle, ça a préparé aussi ce qu'on rassemble aujourd'hui dans l'expression mai 68, c'est-à-dire un moment de très grande libération des mœurs qui aboutit des années après au mariage pour tous, par exemple. Finalement, il y a aujourd'hui quand même, d'une façon générale dans la société, une plus grande tolérance vis-à-vis de toutes les formes de sexualité. C'est pas encore la vie de tout le monde, mais enfin quand même, je crois que là il y a eu des progrès. Et je pense que ce qui a amorcé cette ouverture des esprits, c'est justement l'émancipation des femmes. Je pense que ça a joué un rôle, en fait, et très, très important.
Mais ce que disait Malraux, c'est que finalement, les hommes, il parlait là du plaisir masculin, les hommes étaient dominés par leur désir, et que finalement, percer le désir des hommes, c'était avoir la possibilité de les gouverner. Vous diriez ça? Vous diriez ça aussi des femmes, Catherine Millat?
Oh, je trouve que c'est un peu, c'est peut-être un petit peu exagéré de poser les choses comme ça. En fait, bon, alors si c'est le cas, je veux dire, c'est encore plus difficile de maîtriser le désir des femmes que le désir des hommes. Je pense.
Pourquoi?
Je pense qu'aujourd'hui que les femmes se sont libérées, comme on dit, elles sont prêtes à beaucoup plus d'audace finalement. Que bien des hommes. Dans la continuité de ce que je disais à l'instant, ce qui est aussi évident, par exemple dans la littérature de Lawrence, c'est disons l'exogamie ou en tout cas le fait que des femmes dès cette époque sont allées chercher des amants dans des classes sociales qui étaient considérées comme inférieures à celles dans lesquelles elles étaient nées. Et donc ça a fait aussi bouger les frontières de la société.
Mais alors vous dites, D.H. Lawrence a dévoilé les difficultés pour des femmes très brillantes de se livrer à l'amour. Expliquez-nous pourquoi.
Eh ben, à cause de ce surmoi qu'elle, dont je parlais tout à l'heure, je pense que une femme qui se libère, elle se cherche des modèles. Elle se fabrique des modèles, elle se fabrique une image d'elle-même, elle s'imagine ce qu'elle doit être en tant que femme, imposant sa personnalité, son autorité dans la société. Et donc, parfois, malheureusement, ça aboutit à se construire presque une cuirasse comme ça, vous voyez, pour résister aux pressions de l'extérieur, de la société machiste, etc., etc. Et je pense que les femmes se sont à la fois libérées de l'emprise des hommes, mais barricadées souvent dans l'image qu'elles se construisaient d'elles-mêmes.
Et puis il y a quelque chose d'étonnant dans votre livre, vous dites finalement que le plus important dans ce qu'a révélé Lawrence, ce n'était pas le changement du statut social des femmes, vous dites que c'est une plate revendication féministe, mais le plein épanouissement de leur jouissance sexuelle.
Et pourquoi? Bah oui, ça compte aussi quand même.
Je n'ai pas dit que ça ne comptait pas. Je veux juste dire que votre hiérarchie est étonnante. C'est un peu comme si on disait qu'il valait mieux bien jouir que de diriger une entreprise, par exemple.
Mais pourquoi vous avez envie? Pourquoi on a envie de diriger une entreprise?
Bah, vous on en dirigez envie... une, vous.
Oh bah alors attendez, alors je vais faire attention à ce que je vais dire, mais enfin tant pis, je vais jusqu'au bout.
Je vais juste de votre travail d'entrepreneur.
On a envie d'être le chef pour pouvoir aussi attirer l'attention vers soi, sur soi, et aussi séduire plus. Moi, on veut être le chef pour baiser plus, pour avoir plus de liberté, pour baiser plus. Moi, je pense ça.
Vous pensez ça?
Bah oui. Alors au fond.
Et ça vous a aidé?
Alors, non, bon, je... écoutez, ça ne m'a pas desservi.
Le fait d'avoir dit cela en 2001, parce que donc dans votre livre, je vais le dire, non pas au beaucoup moins de 20 ans, parce que j'espère qu'il n'y a pas trop d'enfants qui nous entendent, mais en tout cas, les plus jeunes ne se souviennent peut-être pas du scandale qu'avait suscité votre livre. Alors, non pas scandale comme l'a été l'aimant de Lady Chatterley, mais... Pour la première fois, une femme était extrêmement explicite sur son désir, un désir avec des partenaires multiples, Catherine Millet. Et justement, le fait que ce soit une femme qui était connue, puisque vous étiez directrice d'Art Press, et que cette femme mette en quelque sorte sa sexualité sur la place publique, alors que Pauline Réage l'avait fait, par exemple, mais sous un pseudonyme, oui. Ça, c'était quelque chose de nouveau.
Bah, c'est pas à moi de le dire. Oui, ça a été perçu comme ça. J'ai toujours dit que si je n'avais pas choisi de publier ce livre sous un pseudonyme, c'est parce que je pense que je lui donnais d'autant plus de crédibilité. C'est-à-dire, même comme ça, il y a des gens qui ont soupçonné qu'une partie était inventée. Non, je n'ai jamais raconté que la vérité de ce qui m'était arrivé, des rencontres que j'avais faites. Et en effet, du plaisir que je pouvais trouver dans une forme de sexualité qui était des rencontres de hasard, comme ça, soit dans des clubs échangistes, soit même au Bois de Boulogne. Moi, c'était une chose que j'aimais beaucoup. Donc, voilà, j'ai...
Le fait de l'écrire, qu'est-ce que ça a changé pour vous, Catherine Millet?
Ça m'a fait changer de vie sexuelle.
Pourquoi?
Bon, parce que j'aurais eu l'impression... d'abord, je commençais à vieillir, pour dire les choses, mais surtout, je pense que j'aurais eu l'impression, j'ai toujours dit ça, de jouer dans un film qui aurait été une adaptation de la vie sexuelle de Catherine M, vous voyez? Parce que, en fait, déjà, j'ai une petite tendance à être toujours spectatrice de moi-même, c'est pour ça que j'écris des livres autobiographiques. Alors là, ça aurait été encore pire, je me serais vue dans l'action encore plus. Donc, je pense que ça a changé ma libido. plutôt, c'est-à-dire que j'avais moins envie de ce genre de pratiques sexuelles, quoi.
Et alors donc, vous décriviez une femme qui était extrêmement libre, libre dans ses actes, libre dans sa pensée également, qui s'était émancipée de son carcan initial. Et le livre d'après, Jour de souffrance, là vous évoquiez la jalousie, votre jalousie par rapport à la vie sexuelle de votre compagnon. Et alors là, patatras, on se disait, bah finalement, cette vie de libertinage, ça ne provoque pas que du bonheur, c'est quelque chose qui ne marche pas.
Si vous avez la recette absolue du bonheur, vous me la donnerez, s'il vous plaît, la gardez pas pour vous, parce que, non, en fait, j'ai fait ce livre, Jour de souffrance, qui décrit en effet une très profonde et très longue crise de jalousie que j'ai traversée, pour dire ça, pour dire, on peut avoir une philosophie libertine. On peut, je dirais, pour l'absolue liberté sexuelle, même au sein du couple, bon, et ça n'empêche pas qu'on peut néanmoins souffrir de la jalousie. Et il faut faire avec cette contradiction. Et si vous voulez, moi, cette crise a été d'autant plus douloureuse que je ne voulais pas remettre en cause ma philosophie. C'est-à-dire que je n'aurais pas eu envie de brider la liberté sexuelle de mon compagnon, vous voyez. Bon, donc en fait, j'ai aussi souffert de ça. Et pour revenir à Laurence, c'est une des choses qui m'a intéressée dans la manière dont il présente ses personnages, c'est que c'est toujours des personnages qui sont fracturés, qui sont traversés de contradictions, qui disent à la femme dit à l'homme qu'elle aime, je t'aime, et puis quelques lignes plus loin, elle dit je te hais. Bon, et dans ces moments-là, c'est vrai, je pense que dans des moments par exemple assez intenses au sein du couple, eh bien, on peut se disputer. À ce moment-là, on le hait l'autre, on le hait, on le tuerait. Bon, il y en a qui tuent d'ailleurs. Bon, donc je pense qu'il faut savoir, il faut accepter le fait qu'on est partagé, qu'on est bourré de contradictions et que ces contradictions, on ne les règle pas.
Mais
voilà,
est-ce que finalement,
il faut faire avec.
Est-ce que finalement, la morale sexuelle traditionnelle, la morale sexuelle religieuse ne permet pas justement d'être plus à l'aise avec ça? Déjà, elle interdit un certain nombre de pratiques qui peuvent susciter la jalousie. Et puis, l'amant de Lady Chatterley, Constance Chatterley, elle a en quelque sorte une circonstance atténuante pour aller vers ce jardinier qui est son amant.
Oui.
C'est que son mari est impuissant et qu'il ne peut pas la satisfaire. Donc ça justifie, ça pourrait excuser auprès d'une certaine morale victorienne
son inconduite. Je pense qu'en 1928, Laurence était obligée de prendre certaines précautions. Il fallait que la situation soit plus acceptable. Mais quand même, je rappelle que dans le roman, avant d'avoir l'aventure avec le garde-chasse et de connaître le plaisir avec le garde-chasse, elle a un autre amant qui est un jeune auteur de théâtre, un garçon très à la mode, un intellectuel, et que avec lui, c'est le fiasco. Lui, c'est un éjaculateur précoce. On comprend ça en lisant le roman. Donc, elle a eu d'autres expériences sexuelles avant celles qu'elle connaît avec le garde-chasse.
Pensez-vous aujourd'hui que l'existence des sites de rencontres, l'existence des applications, bref, tout ce qu'il y a eu de nouveau en matière de moyens de rencontre change la vie sexuelle des gens, des femmes, des hommes?
Ça doit changer quand même un petit peu les pratiques, mais je me dis que si on cherche plus, ça ne veut pas dire forcément qu'on trouve plus. Donc, ces applications, j'ai pas l'expérience de ça, évidemment. Je sais pas s'il existe des enquêtes de satisfaction à propos de ces sites. Mais enfin, je suis pas sûre que ça règle tous les problèmes.
Et puis, de l'autre côté de votre regard, cette fois-ci, donc, pour la critique d'art que vous êtes, il y a aussi la question du scandale en art. Et je souhaitais vous faire entendre un extrait d'un reportage qui avait été fait en 2014 au sujet de Paul McCarthy, l'artiste qui avait érigé un sapin gonflable sur la place Vendôme à Paris. Sapin gonflable que certains avaient considéré comme étant, comment va-t-on dire, un ustensile sexuel.
Ça peut représenter une forme de cône, mais c'est également une sorte de sculpture abstraite.
Pour moi, ça représente un sapin, un petit sapin de Noël.
Un petit sapin, absolument.
C'est un sapin.
Ça me fait penser à autre chose, mais je dirais pas.
It looks a bit like a phallus. Like a phallus.
La France sera toujours aux côtés des artistes, comme je le suis aux côtés de Paul McCarthy qui a été finalement souillé dans son œuvre.
Alors on est désolé pour cette juxtaposition qui est très irrévérencieuse entre donc des commentaires faits sur le sapin de McCarthy et puis la voix extrêmement sérieuse de François Hollande. Votre réaction par rapport à cela?
Moi, l'affaire McCarthy, pour moi, c'était l'exemple même du faux scandale. Parce que d'abord, il avait érigé cette sculpture dans le cadre de la FIAC, vous savez, la foire de l'art. Donc en fait, c'était une manière de faire de la publicité pour un salon commercial, il faut dire les choses. Bon, et puis on se doute bien, McCarthy, c'est un artiste qui aime beaucoup la provocation. Bon, alors on se doute bien que si on met ça place Vendôme, les passants de la place Vendôme, ils n'ont pas l'habitude de tellement forcément de l'art contemporain. Et donc il y en a eu quelques-uns qui étaient choqués, ce qui est tout à fait normal. Et ce genre de démarche d'artiste, c'est fait pour choquer, en effet. Donc qu'il y ait des gens choqués, c'est fait pour. Donc tout, je dirais, tout va bien. Ce qui est un peu énervant, c'est le milieu de l'art à ce moment-là, et compris donc le monde politique qui se mobilise pour crier au scandale. En fait, les gens sont très contents. Ils provoquent presque un scandale, je dirais délibérément, pour pouvoir se rassurer et dire « Regardez, est-ce qu'on est transgressif, etc. etc. » Bon, donc tout ça est un peu frelaté.
Mais alors, est-ce que l'on peut prendre quand même cet art contemporain au sérieux, puisque chaque auditeur et juge peut regarder le sapin de McCarthy et décider si pour lui c'est de l'art ou pas. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce type...
Moi, j'aime assez le travail de...
Expliquez-nous.
Le travail de McCarthy, moi, je l'aime assez parce que, en fait, par exemple, il a beaucoup exploité des figures très très enfantines, vous voyez, des personnages de livres pour enfants, qui met dans des situations extrêmement trash, comme ça, très très provocantes, souvent assez scatologiques. Bon, moi, il faut dire que ça m'intéresse parce que
pourquoi
parce que ça révèle le fond pulsionnel que chacun, même la personne la mieux civilisée, a au fond de lui-même, et à commencer par les enfants à qui on donne une bonne éducation en leur donnant des petits personnages modèles qu'ils trouvent dans leur livre. Bon, mais voilà, derrière tout ça il y a quand même de la pulsion, donc ça révèle ça, il faut l'accepter là aussi.
Depuis 45 ans, Art Press est un titre qui domine, ou qui pèse en tout cas, sur l'art contemporain. Comment jugez-vous l'évolution de ce monde-là,
Catherine? Vous avez envie de me plomber le moral pour mon week-end?
Non, pas du tout. J'ai envie de vous entendre là-dessus, parce que ça fait longtemps qu'on a envie
là-dessus. Parce que finalement, vous savez, il y a quelques années, je me trouvais comme ça, assise dans une soirée à côté d'un ami artiste, et je dis comme ça le monde de l'art, et il me reprend, il me dit, tu veux dire le marché de l'art? Et ça, c'est un gros problème pour tous les gens de ma génération. Vous rappeliez qu'Art Press a 45 ans. Pour les gens de ma génération qui avons vraiment travaillé toute notre vie pour essayer de faire connaître des artistes, voilà, qu'on a commencé à désigner sous ce terme art contemporain, et qui faisait des recherches en effet très très intéressantes. Tout ça a été récupéré par le marché, la fondation Vuitton et compagnie, et ça devient complètement autre chose. Et je pense que malheureusement ça fausse la perception que les gens peuvent avoir de l'art contemporain. Quand les gens pensent que l'art contemporain, c'est Jeff Koons, par exemple. Bon, moi, j'ai défendu Jeff Koons au début, parce que j'ai pensé qu'il y avait des choses qui étaient intéressantes dans certaines de ses œuvres. Mais il faut dire que il est perdu maintenant. Enfin, parce que en fait, ses œuvres sont beaucoup moins intéressantes. Elles ont perdu justement de leur provocation. Elles ont perdu aussi de leur intérêt purement plastique, par exemple, de leur invention plastique. Ça compte aussi quand on parle d'art plastique. Bon, donc c'est vraiment désolant. Moi, je me souviens du vernissage Jeff Koons au Centre Pompidou. On se croisait, on était quelques-uns à se croiser, en disant, mais c'est désolant que les gens vont venir au Centre Pompidou et penser que c'est ça l'art contemporain, quoi.
Mais alors justement, si je souhaitais vous entendre sur l'art, c'est parce que vous êtes une femme libre, y compris dans votre parole sur l'art. Et vous pouvez, par exemple, dire que pour vous, Francis Bacon n'est pas un grand peintre, que Soulages n'est pas non plus un grand peintre.
Je peux nuancer.
Vous êtes là pour ça.
Bon, je
expliquez-nous pourquoi Francis Bacon, enfin vous nuancez évidemment ses propos puisque ce sont les vôtres. Pourquoi Francis Bacon n'est pas un grand peintre?
C'était pas un grand peintre. Bon, c'est pas un peintre, c'est pas un très grand peintre. C'est pas l'équivalent pour moi de Picasso ou de Salvador Dali ou de Matisse ou de gens comme ça. Bon, parce que je trouve que c'est quelqu'un qui s'est assez tôt enfermé dans un système plastique qu'il a beaucoup beaucoup répété. Alors c'est vrai que les tableaux sont très beaux, mais on demande aussi à un artiste un peu de se renouveler, de proposer, de creuser un peu son sillon en quelque sorte. Et moi je trouve que Bacon n'est pas un artiste qui s'est énormément renouvelé.
Et Soulage.
Et Soulage. Soulage. J'avais fait au moment de sa rétrospective au Centre Pompidou un article très sévère contre lui parce que là aussi je pense qu'il s'est enfermé dans un système et puis que surtout que voilà plastiquement ces tableaux, cette histoire du noir, de l'outre noir, du noir qui est une couleur, etc. On aurait aimé que il invente un peu autre chose, quoi.
C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens que le système de l'art, le marché de l'art, a enfermé dans des postures ou dans des artifices.
Je suis pas sûre que ce soit toujours le marché. Je pense que Bacon était une personnalité sûrement très très indépendante. Donc je pense pas que ce soit forcément le marché. Non, c'est que ça a été un grand obsessionnel, quoi. Peut-être qu'il aurait fallu qu'il sorte de temps en temps de son obsession. Pour Soulas, je pense que c'est plus l'establishment, c'est plus le fait de devenir un peu, entre guillemets, le grand peintre officiel de son époque.
Je vous présente mes camarades qui viennent de rentrer. Aurélien Bélanger qui nous livrera sa conclusion définitive sur les Didier. Mathilde Serrel, je crois que vous souhaitiez poser une question, réagir à ce que vient de dire Catherine M.
Oui, ce qui m'intéressait, c'était effectivement de dire que c'était pas forcément le marché de l'art ou l'establishment, mais qu'est-ce qui peut se passer dans la vie d'un artiste pour que tout d'un coup, effectivement, il y ait on perde cette recherche. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, on voit des carrières où il y a une répétition, où il y a un enfermement, où en tout cas, on ne propose plus ce qu'on proposait avant. Est-ce que c'est parce qu'il faut avoir une discipline pour se renouveler, comme le font beaucoup d'autres artistes?
Vous savez, je pense que c'est devenu très très difficile aujourd'hui pour un artiste de se protéger du système. La demande est énorme. Je ne sais pas si vous avez remarqué, l'art contemporain, c'est à la mode. Bon, donc il y a énormément de sollicitations de la part des galeries, des centres d'art, de ce qu'on appelle aujourd'hui les curateurs. Bon, donc l'artiste, il est toujours tenté. On lui donne les moyens financiers de réaliser certains projets, des fois assez ambitieux, etc. Il rentre dans le système et après, il peut en être un peu prisonnier. Je pense que ça joue beaucoup aujourd'hui. Ça joue beaucoup.